Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour, je suis Stéphane Moïsakis et le podcast que vous allez entendre est un épisode bonus de Capture Mag, le podcast, qui a été enregistré dans les conditions du direct lors de la première diffusion de la nouvelle copie du Festin chinois au Club de l'Étoile en septembre dernier. Bonne écoute. Donc je suis avec mes amis donc Arnaud Bordas, que je présente ici là.
Bonsoir Stéphane.
Rafik Djoumi.
Bonsoir Steph.
Que vous connaissez déjà si vous passez vos soirées ici. Et Julien Dupuis là-bas, mon ami.
Bonsoir, bonsoir Steph. Voilà.
Et on est là pour parler donc du Festin chinois. C'est un podcast qui sera aussi sur le Blu-ray du film qui est donc édité chez Spectrum. Messieurs, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce film ?
Bah, dis Rafik.
Déjà de savoir dans quelles conditions il a été produit. Puisque donc c'est une prod film workshop, donc la boîte de Tsoyer qui l'année précédente avait enchaîné Green Snake et The Lovers, qui étaient pas forcément des il avait produit aussi comment ça s'appelle, le Temple Rouge,
le Temple du Lotus Rouge,
le Temple du Lotus Rouge,
de Ringo Lam.
Film de Ringo Lam, ouais.
Et c'était pas les finances n'étaient pas forcément au beau fixe, donc le Festin chinois c'est un film de commande en fait qui a été
pour refaire les caisses.
C'est un film de Noël, hein, de fin d'année,
voilà, du Nouvel An chinois. Donc il en a réalisé de cette année-là, qui était Love in the Time of Twilight, qui est sorti chez nous sous le titre Dans la nuit des temps.
Dans l'abîme du temps.
Dans la nuit des temps.
Non, dans l'abîme du temps, c'est Lovecraft. Dans la nuit des temps.
Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Et donc le Festin chinois pour la Mandarin Film. Donc ça s'inscrit dans une tradition de comédie que le public de Hong Kong était habitué à voir à chaque début d'année chinoise. Donc ça c'est important pour le contexte, parce que l'identité du film elle est quand même conditionnée par ça. On sait à l'avance que ce sont des films plutôt joyeux, avec des happy ends, des feel good en fait, ce que les Américains appelleraient des feel good movies, et aussi avec des éléments de comédie qui sont très spécifiques à la culture du cinéma hongkongais et qui parfois peuvent dérouter, voire carrément rembarrer le public occidental.
Alors, en même temps, quand on leur montre Les Anges Gardiens, voilà, c'est un peu le même problème.
On peut dire aussi que c'est une période importante dans l'histoire du cinéma hongkongais, et donc pour Tsoyer et sa boîte, parce que c'est un film qui a été donc qui est sorti en 1995, et on est à 2 ans à cette époque-là de la rétrocession de la péninsule hongkongaise à l'État chinois. Et donc c'est une période assez trouble dans laquelle les grands réalisateurs du cinéma hongkongais, que sont Tsoyer, que John Woo et bien d'autres, vont, pour ainsi dire, donner leur dernier feu, quoi, avec des films vraiment d'envergure, que ce soit John Woo, Une balle dans la tête, Hardboiled, et Tsoyer, les films que tu as cités, Raph, cette période est très riche. Il y a Green Snake, il y a The Lovers, il y a The Blade, qui est un film de sabre hallucinant.
The Blade arrive, je crois, ouais. Arrive après.
Oui, mais c'est 95.
Ouais. Tu vois, oui, bien sûr.
Je dis, on est dans les années qui précèdent la rétrocession, et où il va y avoir une sorte de profusion de production marquante, et qui vont en plus s'exporter à l'étranger. Et révéler vraiment à la face du monde un petit peu ce qu'on a appelé, enfin, vont révéler l'explosion de ce qu'on a appelé dans les années 70-80 la nouvelle vague hongkongaise, quoi. Voilà, ça va être leur dernier feu avant la rétrocession à la Chine, quoi.
Bah oui, sur le côté feel good, vous allez voir, par exemple, dans le générique de fin, il y a toute l'équipe, et notamment Tsoyer, que vous reconnaisserez, qui vous salue et qui vous invite à boire un coup. Alors c'est pas à la fin de l'année de notre année, hein, mais c'est un peu plus tard, c'est au cœur de l'hiver en fait, le nouvel an chinois. Et c'est un film de commande, c'est-à-dire que c'est une production workshop, mais ça avait été commandé quand même par Mandarin. Et Et le couple star en fait était un couple très 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 en vue. Et Antoine a parlé en fait de l'anniversaire en fait de Leslie Cheung. C'est une des grandes qualités en fait du film, c'est-à-dire qu'il a une vitalité, il a une sympathie en fait dans le film qui le porte quoi. Littéralement, c'est vraiment quelqu'un qui je trouve manque énormément au cinéma chinois et pour qui je pense tous les amateurs de cinéma asiatique ont encore un attachement très fort. Je veux dire, on est beaucoup, j'imagine, à avoir découvert le cinéma asiatique avec l'histoire de fantômes chinois. Enfin, en tout cas, c'est mon cas et c'est vrai que Leslie Cheung, du coup, de fait, il a été une de nos portes d'entrée vers ce cinéma-là. Le truc qui a déjà été dit sur lequel je peux peut-être ajouter un petit quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est un film qui est réalisé pour Tsui-Hark entre Green Snake, The Lovers et puis The Blade. Donc c'est difficile de dire ça tellement sa carrière est riche à Tsui-Hark, mais c'est quand même une période particulièrement fructueuse et inventive au niveau formel. Et là, le festin chinois, donc comme je l'ai dit, c'est un film de commande et tout, donc c'est tout ça, toute sa folie d'invention formelle est un petit peu mis en berne, mais néanmoins, vous allez voir, vous allez savoir, vous allez percevoir, parce que vous avez tous un œil tout à fait aguerri, des petites choses ici et là qui détonnent. C'est-à-dire que il y a déjà ce sens du découpage assez frénétique avec cette recherche d'angle, comment dire, percutant immédiat. Bon bah ça, c'est finalement relativement commun au cinéma hongkongais de cette époque. Là et à la comédie, mais chez Tsui-Hark, il y a quand même toujours un côté absolument virtuose là-dedans, c'est-à-dire dans certains mouvements d'appareil, dans certains raccords et tout. Et aussi, il y a quelques audaces formelles qui sont essaimées ici et là, qui annoncent que lui fera un peu plus tard et qui, notamment, aboutira à Time and Tide. Vous verrez, par exemple, vous allez avoir une caméra qui passe à travers une casserole, comme ça, pour vous montrer ce qu'on est en train de vous mitonner dans un wok. Voilà.
Mais Tsui-Hark disait que ce qu'il avait, son angle d'approche, de l'intérêt qu'il avait eu à faire ce film, c'est qu'il estimait les grands cuisiniers comme étant ce qu'il appelle des designers of food. Et donc c'est vraiment l'aspect technicien de la nourriture en fait qui l'intéresse, ce qui de la part d'un cinéaste comme lui très expérimental et intéressant, parce que du coup il va se mettre effectivement de temps en temps à expérimenter lui-même pour voir comment filmer l'expérimentateur de la nourriture à l'œuvre. C'est pas le premier film qui met en scène de la cuisine, puisqu'il avait participé en 91 avec trois autres réalisateurs à la fabrication express très rapide d'un film qui s'appelait The Banquet, qui mettait en scène un nombre incalculable de superstars hongkongaises, ce qui était un film qui avait été fait pour venir en aide aux victimes de la crue du Yangtze qui avait été importante cette année-là, et en gros toute la communauté du cinéma de Hong Kong s'est mis aux quatre fers pour livrer un film en temps record qui était celui-ci. Et donc, il mettait en scène déjà des scènes de cuisine. Mais là, il les filme effectivement d'une façon assez particulière. Et ce qui est marrant dans sa carrière, c'est que donc il y a The Lovers juste avant, qui est vraiment un de ses plus beaux films. Et The Lovers avait été à deux doigts d'être sélectionné à Cannes. Mm-hmm. Et ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons compliquées. Mais je pense que ça a peut-être un petit peu... jouer sur le personnage, enfin sur ce parce qu'il avait aussi la possibilité d'être pas seulement il est déjà reconnu évidemment en Asie comme un producteur et un réalisateur de poids, mais il a pas du tout, en tout cas il a jamais eu l'étiquette en Occident d'un auteur asiatique en fait. Et là il avait la possibilité d'être découvert en tant que tel et ça s'est pas fait. Et je me suis souvent demandé si le festin chinois n'était pas en fait un moment de bascule, parce que juste après, avec The Blade, il va tout casser, en gros, vraiment réinventer à peu près tout ce qu'on imagine être le cinéma de Hong Kong, avec une fureur et une colère qui sont peut-être dues à une forme de frustration qu'il a pu avoir.
Clairement, le côté un peu presque blasphématoire quoi, de The Blade, quoi, on a l'impression qu'il envoie tout dinguer. Mais ce qui est étonnant, c'est que curieusement, au même moment d'ailleurs qu'il se retrouvera à Cannes, mais uniquement dans le jury en tant que membre et non pas sélectionné en compétition officielle, au même moment, il deviendra l'un des réalisateurs des plus gros succès de l'État chinois, c'est-à-dire le plus rebelle des réalisateurs de Hong Kong qu'on pouvait voir à l'époque, qui avait effectivement quitté la péninsule en envoyant tout péter avec des films comme The Blade, se retrouve comme un cinéaste parfaitement intégré dans le système des blockbusters chinois. Enfin, vous avez peut-être vu tous ces films récents, notamment la trilogie Detective D, la suite de Journey to the West, tous ces films-là. Et ça, c'est assez paradoxal, mais je pense qu'il n'est pas un paradoxe près de toute manière, Tsui-Hark.
Après, moi, je pense qu'il y a peut-être un truc à préciser sur ce film-là, c'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude d'éventuellement de voir des comédies asiatiques sortir en France sur, par exemple, la cuisine ou ce genre de choses, moi, je pense notamment à Salé Sucré à cette époque-là, celui-là, il a une espèce de structure de film d'arts martiaux aussi, c'est-à-dire que c'est pas un film d'arts martiaux, il n'y a pas d'arts martiaux proprement, à part une ou deux scènes assez emblématiques, parce qu'il est allé chercher deux de ses acteurs, deux de ses comédiens qui sont...
Il y a un tournoi.
Il y a un tournoi, voilà, mais il y a aussi un entraînement. Est-ce qu'il faut faire revenir le maître, on va dire le maître d'arts martiaux, en fait, pour lui réapprendre à cuisiner, donc à combattre, en fait, d'une certaine manière, quoi. Et donc il y a tous ces codes-là qu'il récupère et qui le détournent, en fait, pour les inscrire dans cette comédie sur la bouffe, on va dire, pour résumer. Et il y a aussi, moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est des petits éléments disruptifs comme ça de comédie, parce que la comédie de Hong Kong, effectivement, c'est un truc assez particulier. Mais même là, lui, je trouve qu'il le fait un peu mieux que dans certains films. Il y a notamment, et vous allez voir, et c'est assez, moi, ça me fait rire, mais c'est cette scène avec le gros poisson au début, qui est assez marrante, quoi, qui est assez fun et qui met en scène. C'est-à-dire que c'est une vraie comédie mise en scène aussi, quoi. Et c'est, mine de rien, bon, on a parlé des Anges Gardiens au début, c'est rare.
T'as des petits trucs étonnants aussi, je sais pas, vous repérerez peut-être, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a même un clin d'œil assez déroutant quand on sait qu'ils étaient fâchés à cette époque-là avec John Woo, mais il y a une scène en gros, dans le restaurant, tous les gangsters se braquent les uns les autres, tout le monde sort les flingues, et puis il y a un personnage qui cherche son flingue et qui essaie de le retirer d'une cage en osier, et qui est un clin d'œil avéré à la première scène, à la première grosse scène d'action de Hard Boiled de John Woo. Et donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'à cette époque-là, John Woo était en train de partir vers les États-Unis et il s'était fâché déjà 2-3 ans avant.
Mais il y a tout type d'humour dans ce film aussi, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire de l'humour méta sur les Sitchin notamment, puisqu'en fait à un moment donné, parce qu'ils sont en train de lui faire retester sa
carrière de chanteur.
Voilà, ouais. et Louis du chef cuistot, en fait, et il capte, c'est une comédie absurde, hein, donc il capte la radio et en gros il capte un autre chanteur et non pas les Sitchin, et les Sitchin est dans la scène. Et donc ils sont là en train de toiser le truc. Il y a plein d'humour comme ça différents, ce qui fait que
qui disent c'est qui
c'est pas les Sleet Chung, c'est pas du Sleet Chung. Et donc en fait, en gros, il y a de l'humour méta, il y a de l'humour absurde, il y a tout un tas de trucs,
du slapstick
déconnant,
de l'humour presque cartoon. Tu parlais de la scène du poisson, ça pourrait être tout à fait ça. Dans un cartoon.
Donc c'est assez riche. Comme toujours, moi je trouve que c'est Tsui-Hark quand il réussit ses films, et en gros pour moi il en réussit quand même la plupart. C'est hyper divertissant. Et voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas cette aura, en tout cas à l'époque, cette aura d'auteur aussi, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment fait les films pour le public, même si il a besoin de se réinventer en permanence, en ayant
conscience de construire quelque chose de culturel, en fait. Moi, bon, je suis nul en histoire de Chine, donc je me reporte sur mes notes, mais en fait, Tsui-Hark faisait remarquer que le défi qui est mis en scène dans le film. Il s'inspire en fait d'un repas célèbre qui avait été organisé sur l'initiative de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing en 1720, où justement il avait mis des cuisiniers en challenge en fait de produire les plats les plus extraordinaires, et c'était une façon pour l'empereur de ramener à sa table les Mandchous et les Han qui à l'époque se mettaient joyeusement sur la gueule. Et donc pour Tsui-Hark, la nourriture, elle est un des fondamentaux de la culture, en fait, de l'expression culturelle. Et on ne peut pas détacher tout ce qui se passe dans le film de l'idée de cinéma, en fait, de ces cuisiniers dont les carrières, pour certains, sont brisées, certains qui cherchent à tricher. Vers la fin, vous verrez l'utilisation de la haute technologie par des gens qui s'habillent dans des costumes traditionnels. Et l'astuce, beaucoup d'astuces, en fait. Quand un cinéaste met en scène ce genre de scène-là, c'est jamais totalement gratuit, c'est pas juste pour faire rire, c'est parce qu'il est aussi en train de dire quelque chose sur ce qu'il considère être son propre métier. C'est pour ça que je parle peut-être d'un film de transition, parce que comme juste après, il y a Blade qui arrive, d'ailleurs dont un des comédiens sera déjà présent là, je pense que c'est une
presque préparation.
Chu Manchuk qui avait remplacé Jet Li déjà sur
Il était une fois en Chine.
Non, je pensais aussi à Xiong Xing, qui joue le bad guy Voilà. Donc c'est quand même un, c'est pas le plus grand de Soyark, hein, mais c'est un film quand même important pour comprendre un peu son évolution en tant que cinéaste.
Je suis d'accord.
Juste peut-être préciser que le film a très bien marché. C'était quand même le but, hein, de renflouer les finances. Il est resté un mois à l'affiche, ce qui quand même était un peu un exploit à Hong Kong. Il a rapporté donc 31 millions de dollars HK en entrée. Et donc c'était quand même une affaire bien fructueuse qu'il a vraiment remis sur les rails. Donc voilà.
C'est un film qui est sorti en France en salle. Bon, ça n'a pas été le même succès évidemment, en France, mais c'est un film qui est sorti en salle en France quand même.
Donc voilà, ça fait partie quand même des succès de la carrière de Soyark.
Et il a perdu tout l'argent avec The Blade derrière. Voilà. Pour partir tourner avec Van Damme ensuite. Voilà. Merci messieurs.
Merci.
Vous avez prévu un restaurant chinois juste après parce
que le film donne faim, oui.
Il va vous coller la dalle, hein, le film.
Vous allez vouloir manger des pâtes d'ours.
Merci.
Merci à tous.
Merci. Merci.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.